La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info, où nous allons débattre une nouvelle fois des sujets à la une de l'actualité nationale avec les trois invités de cette émission. Je salue Marie-Christine Monnoyer, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, professeur des universités. Je salue aussi Julien Klotz, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du Parti Socialiste. Et je salue enfin Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, conseiller métropolitain, conseiller départemental de la Haute-Garonne et membre du Parti Les Républicains. Bienvenue aussi à tous les trois et merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. Je remercie en particulier Julien Klotz qui fait ses débuts à la mêlée de l'info. L'événement politique de la semaine, c'est bien sûr le discours de politique générale prononcé mardi à l'Assemblée nationale par François Bayrou. Lors de sa longue intervention, le Premier ministre a abordé de nombreux sujets, l'immigration, l'éducation, l'environnement, la santé, l'agriculture, le logement et quelques autres. Et il a fait plusieurs annonces, notamment concernant la réforme des retraites qu'il souhaite remettre en chantier. Vous avez tous les trois écouté son discours. Qu'en avez-vous pensé sur la forme qui a été un peu hésitante par moment et qu'en avez-vous retenu surtout sur le fond? Et je donne la parole tout de suite à Marie-Christine Monnoyer.
Bonsoir. Alors c'est toujours difficile d'aborder un discours et le fond d'un discours qui a été prononcé la veille. Notre temps de réflexion et l'universitaire que je suis aime mieux avoir un peu plus de temps. Ceci étant, nous avions été dans les jours qui précédaient le discours à l'Assemblée du Premier ministre, nous avions senti qu'il y avait une évolution en cours, en particulier avec le Parti socialiste, sur un certain nombre de points. Et sans doute, ce qui a déçu une partie des auditeurs, de quel bord qu'ils soient, c'est qu'on n'a pas retrouvé tous les points sur certains particulièrement précis dans le discours par rapport aux échanges qui ont eu lieu ou dont on avait l'impression qu'ils avaient lieu entre le Parti socialiste et l'équipe au pouvoir. Donc forcément, il y a une déception à cause de ce point-là. Et pourtant, dans ce discours, il y a des points dont certains disent qu'ils sont imprécis, pour certains points c'est vrai, mais d'autres qui ne sont pas si imprécis que cela. En particulier, on peut, j'ai envie de dire, s'amuser à disséquer un petit peu ce qu'il y a derrière la question de la façon dont on a parlé des retraites. On n'a pas dit qu'on allait attendre, etc., mais on lance quelque chose. Quelle est la grande différence? Je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment importante. Et ce qui doit retenir sans doute notre attention, c'est le fait qu'on reparle des retraites. Bon, tout le monde a envie d'en reparler, donc parlons-en. Et d'autant que sur certains éléments de la loi, pratiquement tout le monde est d'accord sur le fait que ce n'est pas une bonne loi. Pas sur tous les éléments, mais sur certains d'entre eux. En particulier les carrières longues, en particulier la situation des femmes, etc. Est-ce que la date 64 ans elle doit être fatidique ou pas? Moi, je suis économiste, je compte. Je compte les âges, je compte la durée de vie, je compte le nombre d'actifs et je me dis qu'il y a un moment où il va bien falloir se dire que si on vit en bonne santé jusqu'à 77 ans et demi pour les femmes et 70 ans pour les hommes, 64 ans, c'est pas une catastrophe nationale. Bien sûr, ce n'est pas vrai si on a un métier extrêmement dur, etc. Mais pour un professeur d'université, ce n'est pas impossible. Bon, tout le monde n'est pas professeur d'université, mais même sans doute, pour un professeur des écoles, ce n'est peut-être pas impossible. Et pour un grand nombre de métiers, ce n'est pas impossible. Et d'ailleurs, si j'en juge dans mon environnement immédiat, par le nombre de personnes qui décident, au-delà de l'âge de la retraite, de continuer, par exemple, à temps partiel, pour rester dans la vie active et la vie sociale, il me semble qu'il y a des pistes à explorer. Et que parallèlement, si nous avons si peu de seniors ceux que l'on appelle des seniors, les plus de 45, les plus de 55, ce que vous voulez, qui n'ont plus d'activité professionnelle parce que les entreprises considèrent qu'ils peuvent partir à la retraite dans un plan XYZ, eh bien, c'est un vrai problème et qu'il faut que nous réfléchissions.
Alors, on ne va pas faire le débat sur la réforme des retraites. On va parler par contre de la méthode qu'a proposée François Bayrou. Voilà. Ça, on va le faire dans un second temps. Vous n'avez rien retenu d'autre qui a retenu votre attention particulièrement, je veux dire, dans ce qu'a pu annoncer François Bayrou.
Moi, j'ai forcément été attentive à ce qui concernait l'éducation. J'ai forcément été attentive à ce qui concernait la santé. Et je constate que sur ces points-là, on entend des observations plutôt positive par certains syndicats enseignants ou par certains responsables de la santé, même si on dit c'est pas suffisant, etc., etc. Donc il y a des points dont on sent qu'il y a consensus, ou du moins un certain consensus. Et cela me navre qu'on ne le dise pas plus.
Oui. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'on n'a pas été forcément très juste, parce que beaucoup ont insisté sur le côté un peu flou de ce qu'a pu dire.
Absolument.
François
Et c'est vrai. Et c'est vrai, mais il y a des
points... Mais c'est un discours de politique général. Hein.
Voilà, mais il y a des points qui ont été soulevés. Oui. Alors, je regrette évidemment qu'on n'ait pas plus parlé des problèmes écologiques. Oui. Celui-là, il m'a manqué.
Il a parlé d'environnement, mais bon. Alors, Julien Clauze, vous, qu'est-ce que vous avez retenu du discours de politique général de François Bayrou? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont bien plu et d'autres un peu moins?
Alors, donc moi, je suis membre du Parti Socialiste, Monsieur Bayrou. Le Parti Socialiste ne fait pas partie de la majorité, en tout cas de l'ensemble des partis qui soutiennent Monsieur Bayrou. Donc, aujourd'hui, on se situe dans l'opposition. Donc, on n'avait pas forcément d'attente particulière, en tout cas en ce qui concerne le fond de ses idées initiales. Effectivement, comme l'a dit Madame Monnoyer, ce qu'on attendait particulièrement côté Parti Socialiste, c'était le fruit des échanges qui ont eu lieu ces dernières semaines, qui ont été assez intenses, semble-t-il, sans que filtre beaucoup le contenu des échanges. D'ailleurs, hein, en tant que membre du PS, on n'a pas forcément
entre Olivier Faure et François Bayrou.
Voilà, merci de préciser. Effectivement, entre Olivier Faure, pas que Olivier Faure, il y avait les présidents des groupes aussi bien au Sénat, donc M. Patrick Kanner et M.
Son nom m'échappe aussi. Oui. c'est pas moi qui vais pouvoir vous aider.
Le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, M. Boris Vallot.
Voilà. Ah oui.
Donc ils étaient à plusieurs. Bon, ils ont travaillé. Il y avait aussi d'ailleurs les écologistes et les communistes qui ont participé.
Absolument.
À ces échanges.
Oui.
Voilà, donc on s'attendait à avoir dans le discours un certain nombre d'éléments ressortir. Donc on a été déçus, en fait, de ne pas voir ressortir beaucoup d'éléments suite au...
Que vous attendiez, en tout cas.
Qu'on attendait. Ce qui a provoqué assez rapidement le positionnement... Alors, la France Insoumise s'était déjà positionnée, puisqu'elle n'a pas participé aux échanges, mais le positionnement à la fois des communistes et des écologistes, ou des Verts, des écologistes, en disant qu'ils allaient voter la motion de censure proposée par les Insoumis. Et ce qui a provoqué ensuite beaucoup de débats au sein du Parti Socialiste, puisque il y avait de la déception, et manifestement les échanges ont continué, puisqu'il y a eu des courriers qui ont circulé, des annonces qui ont été faites. Donc les nouvelles sont sorties au cours de l'après-midi. Je ne vous cache pas qu'au sein du Parti Socialiste, il y a des personnes qui étaient pour le vote de la motion de censure, d'autres contre. Et à chaque fois avec des raisons légitimes, hein, de se positionner. Alors si vous... Donc en tout cas, si on peut déjà revenir sur le discours de politique générale de M. Bayrou. Comme point qui avait été évoqué à ce moment-là, il y avait le sujet de la réforme des retraites, qui, alors, ce qu'il a proposé n'allait pas aussi loin que ce que demandait le Parti Socialiste, qui était une suspension. Donc là, on voit qu'il y a quand même eu un effort de fait. Alors, est-ce que c'est suffisant? La volonté de revenir devant l'Assemblée nationale après le débat avec les partenaires sociaux, c'est une bonne chose. après conditionner le contenu de ce qui sera proposé à l'Assemblée nationale au résultat de, des négociations entre partenaires sociaux. Moi qui suis par ailleurs engagé syndicalement en tant que délégué syndical dans une entreprise, voilà, tout dépend du rapport de force, hein, souvent pour négocier, ou de la bonne volonté des partis. Et aujourd'hui, je pense que sur la réforme des retraites, les manifestations massives qui ont eu lieu l'année dernière n'ont pas suffi à convaincre le gouvernement et le patronat à renoncer à leur projet. Donc je pense qu'une négociation autour de la table ne sera pas suffisante. Après, je pense que c'est quand même une opportunité, comme vous le disiez, de travailler. Alors je m'excuse de rentrer un peu dans le sujet des retraites, mais sur la question de la pénibilité et de la différence d'âge de départ à la retraite. Je pense que se réfugier sur le fait de l'équilibre économique pour dire il faut forcément que l'âge recule le plus loin possible ne doit pas masquer le fait qu'effectivement il y a des conditions de travail qui sont vraiment différentes et donc c'est moi je pense que c'est une question clé avec laquelle on peut trouver, en s'appuyant là-dessus, on peut trouver des solutions pour converger. Voilà. Donc ça dépendra de la bonne volonté des parties prenantes, mais voilà.
Et sur le reste du discours de François Bayrou, est-ce que, comme Marie-Christine Monnoyer, vous avez relevé quand même quelques points intéressants ?
Alors, encore une fois, moi je suis aussi écologiste, donc je suis membre du PS, mais je suis un écologiste. Et la partie écologie, enfin, comment dire, était particulièrement décevante par son absence, où la phrase qui dit que l'environnement est partout, donc il y a en fait nulle part. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vu ailleurs dans le discours, si ce n'est quand il a parlé d'agriculture en disant que la pyramide des normes devait être modifiée en donnant plus de parole aux usagers.
Oui, on revient
aux usagers.
Cette donc, histoire de choc, de simplification. Bon,
et je trouve que... voilà, donc j'étais... Bon, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et pour moi, et pour nous, et puis pour nos enfants. Voilà, hein, faut pas se le cacher. Donc là, mais c'est pas forcément là-dessus que je l'attendais le plus. Néanmoins, il y a ce point-là. Et puis après, sur le volet immigration, mais je pense qu'on va reparler.
Oui.
Les phrases qu'il a employées m'ont particulièrement déplu, allez, on va le dire comme ça. Et sinon, j'ai trouvé qu'il disait ce qu'il avait envie de dire. Et notamment, il a parlé de la proportionnelle. Bon, voilà, il a déroulé son programme. Après, j'avais pas d'autres, beaucoup plus d'attentes que ça là-dessus.
Bon, deux points sur lesquels on va revenir aussi. Jean-Baptiste de Scorail, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que nous a annoncé François Bayrou ?
Bonjour à tous. Alors, moi, je vais être un peu plus terre à terre que mes deux collègues ici présents. Moi, j'en ai rien pensé parce que pour moi, il n'y avait rien sous le soleil. Ce discours était d'une banalité rare. Il n'a fait qu'enfoncer des portes ouvertes, expliquer que le déficit était dû à l'ensemble des gouvernements. Ben, on n'avait pas besoin de lui, surtout que bon, lui qui est un dinosaure effectivement de ces gouvernements a donc sa responsabilité. Donc il aurait peut-être fallu peut-être en parler. Derrière, je pense que l'erreur fondamentale, c'est la chute du gouvernement Barnier. Je pense que le président de la République, les socialistes, le Rassemblement national et l'extrême gauche on détruit la seule possibilité de pouvoir faire changer l'état de nos finances grâce aux décisions qu'avait proposées M. Barnier. Vous parliez tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'il avait proposé. Alors, dans l'éducation nationale, il dit on va placer l'éducation nationale à première place. Ça fait 30 ans qu'on dit ça. Donc, personne ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi ça changera encore. J'espère qu'il le fera.
Mais... C'est un ancien ministre de l'éducation
oui,
qui l'a dit.
Sauf
en
que
plus.
Quand il était ministre, il n'avait qu'à faire les choses. Ça n'a pas été fait. La discussion effectivement sur l'assurance, sur les retraites, arrêtons de faire croire aux Français qu'on va pouvoir remettre la retraite à 60 ou 62 ans. C'est impossible. Qu'effectivement il y ait eu des mauvaises discussions, et ça je suis d'accord avec ça, que pendant la loi elle a été pas assez discutée, mais maintenant il y a un moment où il faut quand même se dire que les Français doivent travailler plus. Et c'est pénible. Tout le monde n'a pas envie de travailler plus. Moi-même, j'ai pas envie de travailler plus. Mais je vais travailler plus parce que je pense que c'est dans l'intérêt et dans l'évolution des choses. Malheureusement, nous allons être obligés de le faire. Nous allons aussi... il a encore parlé aussi des fonctionnaires en disant « je vais sortir les jours de carence ». Mais remettons aussi les fonctionnaires au centre du dispositif. Je crois qu'il est important que, dans la réforme des retraites, les fonctionnaires travaillent où est le même taux de cotisation, le même temps de cotisation, le même temps d'années de cotisation que les gens qui sont dans le privé. Et pour ça, peut-être compensons les choses en donnant des salaires meilleurs aux fonctionnaires, en leur permettant d'avoir des primes qui soit
intégré
dans la retraite. Voilà. Après, nous avons aussi plein d'autres choses. Pour les agriculteurs, j'ai rien vu de plus que ce qui a été fait pour l'instant. Je pense que, si vous voulez, c'était que de l'à peu près. Et moi, je ne peux pas accepter qu'un discours... Alors, ils disent ce qu'ils disent. C'était le discours, effectivement, de politique générale. Ça, c'est sûr que c'était général. Mais derrière, pour moi, général, vous pensez, il n'y avait rien.
Sa proposition de remettre en chantier la réforme des retraites en mettant dès ce vendredi les partenaires sociaux autour de la table, vous en attendez quelque chose ou vous pensez que c'est à l'heure pour gagner du temps?
Je crois qu'il faut être clair. D'un côté, moi, ce qui m'agace, c'est qu'il remet, il donne la clé aux partenaires sociaux, alors que ce n'est pas eux qui vont décider à la fin. Ce seront les députés et le gouvernement. Donc il y a un moment où j'espère que si il le fait sciemment et qui donnera les pouvoirs effectivement à ses partenaires sociaux de bien discuter, mais je n'y crois pas. Donc, comment voulez-vous que le patronat accepte effectivement une réduction du calcul de la retraite? Alors effectivement, il y a peut-être des axes, la pénibilité, des choses comme ça sur lesquelles on peut travailler, mais il y a un moment où réduire le temps de travail, ça va être impossible.
Vous, Marie-Christine Monnoyer, vous attendez quelque chose de la méthode qu'a proposé François Bayrou là, pour rediscuter de la réforme des retraites?
Alors moi, je pense que c'est une méthode intéressante. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'écoute jamais les niveaux intermédiaires et ne pas, à certains moments, leur donner un vrai pouvoir. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur beaucoup, beaucoup de choses? Je ne sais pas, mais s'ils se mettent déjà d'accord sur un certain nombre de points, relatif à la pénibilité, relatif peut-être même sur certains points qui concernent les fonctionnaires, où c'est déjà beaucoup. Or, bien sûr, la loi a été critiquée, mais pas sur tout, sur certains points plus que sur d'autres. Et à partir du moment où on se focalise sur un certain nombre de thèmes, eh bien, il faut que les partenaires sociaux soient responsabilisés. Ne dites pas a priori que ça ne va pas aboutir. Moi, je pense qu'ils peuvent aboutir sur un certain nombre de points. Et si on arrive sur un certain nombre de points, c'est déjà beaucoup. Et peut-être que ça permettra de convaincre une partie de la population de ce que vous, monsieur, vous venez de dire. Qu'il faille travailler plus au total, je crois que c'est vrai. Et il faut aussi convaincre les entreprises qu'on ne vire pas les gens à 55 ans.
Je suis d'accord avec vous là-dessus.
C'est extrêmement... Or, ce que j'ai lu plusieurs fois, et ce qui me paraît presque évident, c'est qu'à partir du moment où on dit c'est, par exemple, 64 ans, ça veut dire qu'on n'est pas un senior à 50 ans. On a 15 ans de vie devant soi. Et qui sont pas...
Professionnels.
Oui, bien sûr. 15 ans de vie professionnelle, 15 ans de vie avec de l'expérience, 15 ans de vie avec des formations qui ont eu lieu tout au long de la vie. Et tous ces éléments-là, ça me paraît fondamental. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé toute la journée sur les problématiques de l'intelligence artificielle. Eh bien, il me semble que... ça doit être pris en compte aujourd'hui, par exemple dans la loi sur les retraites.
Alors, je ne redonne pas la parole sur le sujet à Julien Clos parce qu'il s'est exprimé sur les retraites. Bon, enfin, sur la méthode proposée par François Bayrou concernant la réforme des retraites. Je voulais revenir sur un autre sujet sur lequel il était attendu parce que c'est un de ses chevaux de bataille depuis au moins 30 ans, François Bayrou, c'était celui de la proportionnelle. Alors lui, il a proposé d'avancer, je reprends ces termes, sur la réforme du mode de scrutin législatif avec un principe proportionnel et il a précisé qu'il devra être enraciné dans les territoires, ce qui obligerait... à revoir sans doute la question du cumul des mandats, mais ça vient en second. Qu'est-ce que vous avez compris de ses intentions sur ce sujet? Est-ce que vous soutenez son projet de réformer le mode de scrutin législatif en l'orientant vers une proportionnelle dont il faudrait après préciser les contours?
Je suis désolée, je n'ai pas compris grand-chose.
Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas vraiment compris.
Alors quand moi je ne comprends pas, je le dis. Je n'ai pas compris grand-chose et l'histoire française ne m'a pas donné une grande confiance dans la proportionnelle. Peut-être que je suis trop âgée pour me souvenir d'un certain nombre de points et que de ce fait, je n'ai pas confiance. Il me semble que cet enracinement dans les territoires, il se fait aussi par l'écoute des maires, l'écoute des conseils départementaux, etc. Il ne se fait pas que par l'élection. Il se fait dans le travail du quotidien. Et je trouve qu'on l'oublie un peu. Oui.
Julien Clos, vous, alors sur ce qu'a annoncé François Bayrou concernant peut-être l'arrivée de la proportionnelle pour les prochaines législatives, je ne sais pas. Vous avez compris, vous, ce qu'il proposait ?
Alors, non, je n'ai pas compris plus, mais néanmoins, du coup, je vais vous donner mon avis sur le sujet. C'est qu'effectivement, ça fait un long moment qu'il défend le principe de la proportionnelle, et on le comprend au vu de la position de son parti politique qui était... n'était pas facile.
Qui avait peu d'élus.
Qui avait peu d'élus en raison de ce type de scrutin. Après, je partage le point de vue de Mme Monnayer. Et je pense que M. de Scorailles partagera aussi. En fait, les élus, il faut être à portée d'engueulade, il faut être dans le concret, il faut être près des électeurs et des électrices. C'est important pour garder les pieds sur terre. En fait, quand on est élu, on a beaucoup de décisions à prendre qui sont parfois éloignées du programme qu'on avait sur lequel on a été élu. Moi, je le sais, j'ai toujours dans mon sac avec moi la profession de foi que j'avais aux dernières élections. Et je vois que parfois on est aspiré par d'autres sujets. Voilà. Et donc, il faut arriver à faire vivre ce lien au quotidien quand on fait un scrutin proportionnel. Et on le voit pour les élections régionales, avec les très grandes régions. Les élus régionaux n'ont pas... Ils font bien leur travail, au mieux. Enfin, je le vois. Mais ils n'ont pas d'ancrage sur une zone territoriale définie.
Terrain.
Et donc, ils n'ont pas ce lien. Donc, je pense que... donc ce principe d'ancrage c'est très bien, et du coup un fonctionnement proportionnel, je vois mal comment ça s'articulerait, et ce mode de scrutin qu'on a aujourd'hui permet aussi de faire plus facilement que d'autres quand même émerger des faits majoritaires.
Donc si je résume, vous êtes pour le scrutin majoritaire et vous n'avez pas envie qu'on passe à la proportionnelle?
Non.
Vous personnellement? Quand il parle d'enraciner dans les territoires, il va un peu dans le sens que vous évoquiez.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que ce qu'il propose, j'essaie d'interpréter parce que je suis comme vous, j'ai pas tout compris, est-ce qu'il propose une proportionnelle qui se ferait au niveau du département, par exemple?
Mais
est-ce que ça pourrait vous convenir? Parce que c'était le cas, la dernière fois qu'il y a eu la proportionnelle législative, c'était en 86,
ouais.
Et c'était comme ça.
D'accord. Je sais qu'il y a un mode de scrutin pour les élections sénatoriales qui sont parfois du majoritaire, parfois du proportionnel en fonction de la taille des... Non, moi je pense qu'il faut rester, faut faire simple et rester sur du majoritaire partout. Voilà.
Majoritaire à deux tours et on ne se pose pas d'autres questions.
Jean-Baptiste
Oscourage, je connais un peu votre réponse. Mais
Julien a tout dit. Je crois que nous devons représenter notre circonscription et les Français ou nos concitoyens doivent savoir pour qui ils votent. Quelle personne il vote. Dans le scrutin même départemental qu'on explique, ça veut dire que ça sera comme aux européennes. Vous allez vous retrouver avec Jean-Luc Mélenchon qui, il y a quelques années, s'était présenté sur le sud-ouest pour l'Europe, alors que, si vous voulez, c'était pas sa terre d'origine. D'autre part, au niveau du département, c'est pareil. Ça veut dire que des gens qui sont capables d'être élus sur leur nom, sur leur tête, passeront derrière des gens qui n'arriveront pas à se faire élire et qui seront en tête de parti et qui se diront... c'est comme ça, je vais être la tête de parti, je vais être ceci, donc je me serai député. Très bien, sauf que les Français et nos concitoyens, ils ont besoin d'avoir des gens qui sont ancrés sur le territoire, qui sont capables de les représenter et qui soient capables d'être choisis aussi. Et la pluralité politique, elle est là. Et d'autre part, la proportionnelle, c'est quoi? C'est qu'on va continuer à faire un tapis rouge à l'extrême gauche et au Rassemblement national? Moi, je ne veux pas. Donc, il y a un moment où il faut être clair. C'est à nous de se battre et de reprendre le chemin des idées, d'être capable de présenter des candidats et avoir le courage de se présenter sur sa tête et sur son nom. Et c'est comme ça qu'on y arrivera.
Alors, je crois qu'il y a au moins 8 modes de scrutin différents pour une proportionnelle entre l'intégrale et la plus petite dose possible. Même vous, une petite dose, il n'en est pas question.
Moi, je pense que les gens qui veulent se présenter face à leurs concitoyens doivent être capables de le faire sur leur personnalité,
en
sur
bien
ce qu'ils apportent sur leur nom.
Et pas un numéro sur une
c'est
liste.
C'est exactement ça.
Bon, alors le Premier ministre François Bayrou a annoncé autre chose. Il veut reprendre l'étude des cahiers de doléances issus du mouvement des Gilets jaunes, afin que s'expriment, et là je reprends aussi ces mots, les attentes souvent les plus inexprimées qui sont celles des milieux sociaux exclus du pouvoir. Est-ce que vous attendiez à une telle annonce? Est-ce qu'elle a du sens aujourd'hui? Parce que moi, il me semble que les attentes de la population sont tout de même assez bien identifiées aujourd'hui. Marie-Christine Monnoyer.
Alors en fait, je pense que c'est le professeur Bayrou qui est allé chercher ça. Parce que, quelque part, il regrette et il regrettera que le travail minutieux fait par certains n'ait pas été utilisé. Donc on le fait remonter à la surface. Pourquoi pas? Mais ça ne va pas être un
véritable... C'est 2018, cette histoire.
Hein. Oui, et ça ne va pas aboutir à des éléments extrêmement intéressants. Nous sommes tout le temps sondés, questionnés.
Ah oui, je pense qu'effectivement, on sait ce qui préoccupe les Français.
Ce qui serait intéressant, peut-être, c'est qu'au niveau local, les élus locaux...
Se les approprient
et les relisent.
Je crois que c'est ce qu'on fait, hein, je pense.
Alors, peut-être pas tous. Julien Clos, vous, c'est une idée qui a un intérêt, pour vous, c'est de l'enfumage.
Alors... Moi, le volet intéressant que je trouvais dans la manière d'aborder ce point-là, c'est que c'était de valoriser effectivement une matière qui avait été collectée. En fait, il arrive quand même trop souvent, à mon goût, qu'un rapport soit fait au niveau national sur une thématique et que les ministres et autres le mettent dans un tiroir et fassent autre chose. Et qu'ensuite, on fasse autre chose et on n'évalue pas si ce qu'on a fait, c'était efficace. Donc... moi, je suis scientifique, mais avoir une démarche un peu rationnelle d'écouter ce qui se dit sur le terrain, faire quelque chose et ensuite évaluer si ça marche, je trouve ça intéressant. Après, effectivement, les cahiers d'oléances peuvent commencer à être un peu vieux. On peut peut-être faire une relecture pour vérifier s'il y a des choses qui restent encore. Voilà. Bon, en tout cas, je trouvais cette démarche-là intéressante. Après, le contenu, j'en dirai pas plus.
Jean-Baptiste de Scorail.
Moi, c'est ce que je disais au départ, hein, c'est de l'enfumage. S'il est sur le terrain, malheureusement, les doléances des Français, on les connaît. Et on le voit tous les jours dans notre vie de tous les jours, à la fois dans notre travail et à la fois dans nos mandats d'élus. Et je crois que... Alors, si on peut les remettre en haut de la pile, c'est très bien. Mais je crois que, malheureusement, tout ce qui a été dit n'a pas été traité. Et on continue à voir tous les jours les problèmes des Français. Et je crois qu'il faut les reprendre d'une autre façon. Mais d'aller ressortir des cahiers de doléances, j'en sais rien. Ça, je pense que quand même, il doit connaître au niveau où il est. Et depuis le temps qu'il est élu, les problématiques des Français. Donc, ça n'a aucun intérêt pour moi.
Alors, parmi les préoccupations des Français qui arrivent en tête, hein, lorsqu'il y a des sondages, il y a évidemment le sujet de l'immigration et de son contrôle. François Bayrou l'a abordé, vous pouvez difficilement faire autrement. Il a déclaré qu'il est de notre devoir de conduire une politique de contrôle, de régulation et de retour dans leur pays de ceux dont la présence met en péril, par leur nombre, la cohésion de la nation. Donc il a rappelé que 93% des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, ne sont pas exécutées. Et il a précisé qu'il comptait réactiver, le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie de son discours? Est-ce que vous y avez décelé une véritable volonté de traiter cette question, Marie-Christine Monnoyer? Ou est-ce que c'est encore très flou? Vous n'avez pas tout compris?
Je ne sais pas si je n'ai pas tout compris. C'est vrai que quand on entend 93% des OQTF ne sont pas réalisés, le commun des mortels se dit, alors pourquoi on en fait? Pourquoi est-ce qu'on fait craindre à ceux que l'on a, dont on considère qu'ils doivent rentrer dans leur pays, le fait que ça soit réalisé, ou que quand on dit qu'il y en a 93% qui ne sont pas faits, eh ben, ça n'a aucune importance. Donc pourquoi pas? Donc on ne peut pas prendre des décisions aussi lourdes que vous devez rentrer dans votre pays et puis ne rien faire. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est, si vous voulez, quand on est parent, on sait que si on dit « si tu fais ça, je te punirai », si on ne punit jamais, eh bien personne n'y croit.
Oui.
Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut forcément se poser cette question-là.
Mais quand il parle de réactiver un le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Vous pensez que ça va changer quelque chose à la situation?
Non, je pense pas.
Un énième comité Théodule, voilà. Comme on dit, des gens qui se réunissent et on ne sait pas trop ce qu'il en sort.
Ça va encore... Ça fait encore une norme.
Un comité de plus.
Oui, alors, il est déjà existant, celui-ci. Julien Clos, l'immigration, chez Coparti Socialiste, oui. Évidemment, c'est un sujet que vous suivez de près. Hein.
Alors, on le suit de près au Parti Socialiste, et puis moi, en tant qu'élu cantonal, et puis parents d'enfants jeunes et parents d'élèves, j'ai passé de longues heures le matin devant les écoles où étaient mes enfants pour soutenir des familles dont les enfants étaient scolarisés dans les écoles pour faire des pétitions pour demander leur régularisation. Et donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'étais d'ailleurs il y a deux jours, non c'était hier matin, devant l'école Viollet-le-Duc à Toulouse pour soutenir les actions de Réseau Éducation Sans Frontières notamment à ce sujet-là. Et donc du coup la phrase qui dit « la présence met en péril par leur nombre la cohésion de la nation », ça me fait vomir, je suis désolé.
Vous pensez qu'il regarde de quel côté quand il dit ça?
Eh bien, c'est pour faire plaisir, je pense, à l'extrême droite, ou en tout cas, après, le chiffre des 93% d'OQTF, oui, les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses, et moi, ce que je vous invite à faire, si vous voulez vous prêter à l'exercice, c'est consulter les petits guides édités par la CIMAD, qui permettent justement d'éclairer vraiment les consciences des gens sur la réalité de ce que c'est que l'immigration, légale, illégale, etc. Ça permet de se rendre compte de ce que c'est. Et dire que des personnes mettent en péril par leur présence sur notre territoire, enfin, quand on voit des familles dont les enfants sont scolarisés, qui travaillent au noir parce qu'en fait ils ne sont pas régularisés, enfin, il faut savoir de quoi on parle et ça veut dire quoi mettre en péril. Je m'excuse. Les communes de notre pays où les votes pour l'extrême droite sont les plus importants sont des communes où la plupart du temps il y a zéro ou très peu de personnes d'origine immigrée. Je pense qu'il y a des fantasmes derrière ça et ça mériterait, je pense, non pas une nouvelle loi au niveau national, mais un vrai débat sur le fond pour reconnaître l'apport de l'immigration dans notre pays, que nous avons voulu à certaines époques pour faire tourner nos usines, par exemple, que nous avons voulu pour faire fonctionner nos armées, donc en tant que soldats dans un certain nombre de conflits. Et puis, il y a des personnes, Monsieur Sarkozy, c'est un descendant d'immigrés. Enfin, voilà, je pense qu'il faut faire cet exercice complet. Et puis après, effectivement, il y a une proportion d'immigration qui est illégale et vérifiée. Donc, en fait, dans les OQTF, moi, j'avais regardé, il y a une partie, c'est parce que les personnes, en fait, on ne peut pas réellement les expulser. Parce que quand c'est une mère d'enfant, c'est-à-dire qu'on prend la mère et l'enfant, qu'on expulse tout le monde, il y a des situations qui sont inextricables. Donc, en fait, c'est 93%.
Ce qui n'est pas un peu curieux dans la formulation de François Bayrou, c'est qu'il a parlé dans la présence mais en péril par leur nom, mais il n'a pas dit par leur comportement. C'est ça qui est un peu étrange, je trouve.
Oui. Merci, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est voilà, donc c'est des propos qui me hérissent, vous l'avez compris.
Oui, j'avais bien compris que le sujet, vous vouliez vous exprimer là-dessus, Jean-Baptiste de Scorail.
Alors bien sûr, je ne peux pas être d'accord avec les propos de Julia Clos sur une partie.
Je
serais d'accord sur le fait qu'il faut avoir de l'humanité, et ça fait partie de mes gènes. Par rapport au traitement de la question, c'est clair. Maintenant, il y a un moment où on remet ça une nouvelle fois sur le tapis, mais tous ces gens qui étaient déjà dans les ministères depuis des années, je reviens là-dessus. Pourquoi cela n'a pas été fait avant? Il y a un moment où, effectivement, il faut qu'on travaille sur l'immigration, sur... On ne peut pas continuer à accueillir tout le monde comme ça. Il faut que les lois qui soient en place soient appliquées.
Et respecté.
Mais il faut aussi le faire de manière humaine. Je dirais, on ne va pas donner un coup de pied aux fesses aux gens pour qu'ils retraversent la Méditerranée ou qu'ils repartent. Mais il y a un moment aussi, il faut que, et je le dis aux socialistes, c'est qu'il faut qu'ils prennent en compte le fait que les Français, en ce moment, sont très préoccupés par cette immigration qui arrive par flot. Alors, bon, on ne va pas prendre le cas de Mayotte, parce que c'est un cas bien spécifique. Quoique. Mais il y a un moment aussi, il faut qu'on respecte les règles. Et ces règles-là, à partir du moment où elles sont respectées, peut-être que les choses seront meilleures. Mais à l'heure actuelle, effectivement, ce qu'a dit le premier ministre, bah, ça fait des années qu'on le dit, mais personne ne le met en action.
Alors vous pensez qu'il lui, a vraiment la volonté de s'attaquer au problème parce que
bon, vous comprenez que je ne suis pas très confiant sur Bayrou. Bon, la seule confiance que je lui donne, c'est d'avoir Monsieur Retailleau comme ministre de l'Intérieur, mais j'espère que les choses seront mises en application dans le respect effectivement de nos lois qui ont été votées, en reprenant les choses et en le faisant de manière humaine.
Oui, alors après, quand 93% des OQTF ne sont pas traités, il faut expliquer aussi pourquoi elles ne sont pas traitées.
C'est clair.
Parce qu'on sait qu'on n'a pas les effectifs dans la justice française pour pouvoir le faire. Bon, on verra bien ce qui se passera. On va rester là pour ce premier débat, sachant que la motion de censure déposée par la France insoumise contre François Bayrou a été rejetée ce jeudi et qu'elle n'a pas été votée, entre autres, par le Parti socialiste, comme l'a rappelé Julien Clos. Il faut y voir un début de fissure dans le nouveau Front populaire à suivre. Ce sera peut-être l'objet de notre émission la semaine prochaine. La prochaine échéance cruciale pour François Bayrou, ça devrait être la présentation de la loi de finances 2025 courant février. Petite pause musicale maintenant dans cette émission et rendez-vous dans une vingtaine de secondes pour reprendre nos échanges. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct avec mes trois invités, Marie-Christine Monnoyer, Julien Clotz et Jean-Baptiste de Scorail. Nous allons parler de politique étrangère maintenant. Comme vous le savez sans doute, les relations entre la France et l'Algérie s'étaient déjà fortement tendues après le voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, où celui-ci avait reconnu la souveraineté du royaume chérifien sur le Sahara occidental. Elle s'était détériorée encore un peu plus à la suite de l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à Alger. Ces tensions ont franchi un nouveau stade en fin de semaine dernière, puisque l'État algérien a renvoyé l'influenceur qui répond au pseudo de Boualem, qui avait été arrêté en France pour avoir partagé des vidéos sur TikTok qui appelaient ses partisans à s'en prendre à un critique du régime algérien. Boualem avait été expulsé vers son pays d'origine, qui nous l'a donc renvoyé. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dont on a parlé il y a quelques secondes, a accusé l'Algérie de vouloir humilier la France en refusant d'accepter un ressortissant algérien expulsé du territoire français. Qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle escalade dans les tensions diplomatiques entre Paris et Alger? Et comment le gouvernement français et le président de la République doivent-ils y réagir selon vous? Julien Clotz, quel est votre avis sur la question?
Alors, je ne suis pas le plus familier avec les sujets internationaux. Néanmoins, moi, ce que je peux vous dire de ma situation d'habitant de Toulouse et de quartier proche de quartier populaire, c'est que l'histoire entre la France et l'Algérie est tellement riche et entremêlée que c'est dommage de ne pas arriver à renouer des relations apaisées. Je crois, mais je pense que vous allez sûrement en parler par la suite, qu'il y a un travail qui a été fait, un travail de mémoire qui a été entamé entre la France et l'Algérie notamment, pour essayer justement d'apaiser toutes ces histoires. Monter en épingle un événement sur une personne, est-ce que c'est ça qu'on doit retenir comme élément pour construire une relation durable? Bon, effectivement, il y a eu cet aller-retour. Est-ce que donc ça peut être symboliquement utilisé? Bon, je n'ai pas d'avis plus que ça. Je pense que est-ce qu'il faut s'arrêter à ça sur la situation d'une personne? En tout cas, ça montre que...
Bon, sachant que ça fait suite tout de même à deux autres événements que j'ai rappelés. Hein.
Oui.
C'est pas comme ça quelque chose qui est tombé comme un cheveu sur la soupe au milieu d'une mer très tranquille.
C'est exact. Après, la question du Sahara occidental est aussi quelque chose de très compliqué. Et alors, je pense que je suis un peu plus jeune que mes deux autres intervenantes et intervenants de ce soir, qui ont peut-être plus d'éléments, plus d'histoire et de contexte sur ces sujets-là.
Alors, Jean-Baptiste de Scorail.
Le seul responsable, enfin, le grand responsable, c'est le président Macron. Au début de son mandat, il s'est mis à dos le Maroc en essayant de faire des courbettes à l'Algérie. Résultat des courses, l'Algérie lui a fait un bras d'honneur. Le gouvernement algérien, c'est pas moi qui le disais, c'était hier, j'écoutais quelqu'un, un journaliste, qui disait que le gouvernement algérien vivait sur une rente historique qui était la guerre d'Algérie, ce qui est vrai. Donc, M. Macron a essayé de faire des courbettes à l'Algérie, etc. Ça n'a pas marché. Donc, il est revenu vers le Maroc. Et maintenant, bah, ça lui revient comme un boomerang dans la figure. Je crois qu'il y a un moment où il faut être ferme. Il faut redire aussi au peuple algérien qu'on les soutient, parce que le peuple algérien, ce n'est pas le gouvernement.
Faites bien de préciser, on parle bien du gouvernement algérien. Voilà,
parce qu'il y a une différence. De la population, parce que quand vous êtes en Algérie, les Algériens aiment les Français. Et c'est vrai
tous sont prêts de la famille en France.
Hein, en plus, donc si vous voulez, il y a un moment où le gouvernement, comme je le disais, vit sur cette rente historique et tient de manière de main de fer et dictatoriale, moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire, son pays, pour qu'on maintienne cette histoire de conflit entre la France et l'Algérie, effectivement, qui a été un conflit déchirant pour tout le monde. Et là-dessus, le président Macron a fait une grosse erreur au départ. Alors, je ne sais pas comment il a été conseillé, mais d'aller effectivement faire des courbettes à l'Algérie et se mettre à dos le Maroc, alors que maintenant, on est en train de faire le sens inverse. Donc, il y a quand même un problème là-dessus.
Alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant de lui et du gouvernement, hein?
Moi, j'attends qu'il faut quand même être ferme aussi avec l'Algérie, en leur expliquant qu'on ne prend pas en otage un écrivain et qu'en France, la démocratie, c'est important. Donc, il faut aussi déjà qu'il montre un signe fort, qu'il libère cet écrivain qui a été enfermé de manière arbitraire.
D'autant plus qu'il est franco-algérien.
En plus qu'il est franco-algérien. Et que, aussi, ils assument le fait que les ressortissants algériens qui sont nos persona non grata en France restent en Algérie.
Marie-Christine Monnier, alors ça, je sais que c'est un sujet que vous suivez. Je parlais tout à l'heure du Parti Socialiste pour l'Immigration. Vous, ce qui se passe avec l'Algérie, vous suivez de très près. Et pour des raisons un petit peu familiales, puisque vous avez grandi non pas en Algérie, mais au Maroc au départ.
Alors en fait, j'avais envie de poser la question autrement.
Alors, reposez ma question, parce qu'apparemment, j'ai mal posé.
Non, vous ne l'avez pas mal posé, mais vous l'avez posé un peu avec une centralisation sur la France. Je crois qu'il faut regarder la position de l'Algérie en ce moment. L'Algérie est dans une situation assez catastrophique.
Oui, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça ne va pas en s'arrangeant, c'est sûr.
Mais... assez catastrophique quant à sa position internationale. Elle est maintenant en opposition ou en non-dialogue ou en contradiction avec tous ses voisins, ce qui n'est jamais agréable. Le point est d'autant plus désagréable que le gouvernement algérien avait décidé de se construire une statue de diplomates vis-à-vis des différents conflits internes qui touchaient chacun des pays. Peut-être pas sur... Mais même pour les Sahraouis. Avec la Libye, avec le Mali, avec le Tchad,
etc. Oui, parce
qu'il
y a ce qui se passe évidemment dans le Sahel.
Voilà. Et donc,
important.
Cette position de diplomate un peu reconnu est en train de s'évanouir complètement. Alors, quand on a perdu sa position de leader local, la solution, c'est de faire un bras d'honneur avec celui avec lequel, en fait, c'est très facile de faire un bras d'honneur, puisque, comme vous l'avez dit, le gouvernement algérien vit sur la rente du colonialisme. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est un épiphénomène. Ils ont, et je crois qu'il faut, bien entendu, par rapport à l'écrivain empoisonné, on ne peut pas dire tout à fait ça, mais il est l'otage d'une situation qui, il est l'otage du gouvernement algérien qui trouve que c'est une bonne façon de faire oublier sa position déliquescente par rapport à ses voisins, et de trouver là une façon de dire, je suis costaud, je suis grand, les Français, allez vous faire voir. Je crois qu'il faut se rappeler ça. C'est pour ça que peut-être que la phrase « la France est humiliée », la France n'est pas humiliée par cette histoire, pas du tout. Donc ne disons pas cela, et d'autant plus que ça positionne relativement difficilement les Français et les Algériens qui vivent en France. L'Algérie n'a pas humilié la France. Elle a utilisé un moyen d'essayer de redorer son blason sur le plan international. C'est très différent. Donc, c'est pas une catastrophe, cette histoire.
Alors, attendez, parce que quand Jean-Baptiste de Corail parle de fermeté, il faut faire montre de fermeté. Ça peut être sur le plan diplomatique, ça peut être sur le plan économique aussi, puisque oui. Nous avons des relations quand même anciennes qui se poursuivent avec l'Algérie de ce point de vue. Est-ce qu'il faut aller, par exemple, jusqu'à la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie s'il ne libère pas Boualem Sansal? Parce que je rappelle qu'il est, il est toujours là-bas, il a 75 ans, il est malade, et on ne sait pas trop dans quel état il est. Hein.
Certains disent qu'il est en très mauvais état.
Oui, oui.
Donc, mais est-ce que la rupture des relations diplomatiques ne le fera pas sortir de prison?
Non, mais les pressions économiques, peut-être que oui.
Ce qui est sûr, c'est que la question de jouer sur les visas... bon, moi, forcément, je suis un peu attentive au visa des étudiants. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça parce que ça a des conséquences sur les personnes qui sont absolument catastrophiques. Donc, surtout, ne pas jouer avec ça. Alors, jouer avec les visas des hommes politiques, pourquoi pas ça?
Alors que c'est l'inverse qui se passe. C'est oui. qu'on laisse des visas pour les hommes politiques et on les supprime pour les autres.
Il ne faut pas se tromper de cible.
Voilà, il ne faut pas se tromper de cible.
Ça, c'est vrai.
Et ça, c'est vraiment un point important.
Alors, ce qui a été suggéré, là, je vous pose la question à tous les trois, ça a été par Gabriel Attal, par certains membres du Parti des Républicains, c'est de revoir ces fameux accords du 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie, qui facilite, entre autres, l'obtention de titres de séjour, vous en parliez, pour les ressortissants algériens, et éventuellement leur installation dans notre pays. Est-ce qu'il faut les revoir, ces accords?
Sans doute qu'ils sont... ils ont beaucoup vieilli. Ils ont beaucoup vieilli, et il faut les retravailler. Je ne les connais pas suffisamment dans le détail pour dire comment il faut les retravailler. Mais, ayant dit que je trouvais que cette histoire était quand même un épiphénomène, il faut... mettre par des voies diplomatiques discrètes la sortie, la libération de notre compatriote. Ça, c'est le point fondamental. Et puis pour les OQTF qui sont pas, ben on va étudier ça autrement. Et surtout ne pas toucher au visa. Surtout ne pas toucher au visa. C'est trop lourd. Et ça ne nous positionne pas du tout bien sur le plan international. Parce que quand les Algériens n'obtiennent plus de visa en France, ils vont ailleurs. Et pas forcément dans un pays qui nous intéresse.
Oui. Alors, ces fameux accords là, bilatéraux de 1968, je rappelle, je vais résumer un peu à gros traits. Hein. C'est une sorte de contrat qui organise la circulation, le séjour et même l'emploi des Algériens en France. Et je précise que toutes les lois immigration qu'on pourra voter n'auront pas d'effet dessus. C'est cet accord bilatéral qui prévaut dans nos relations avec l'Algérie. Julien Clos, vous, les accords, là, il faut y toucher ou alors, c'est pas le moment?
Alors,
et ça changera rien.
En fait, je pense que ça peut mériter d'être nettoyé et à jour, puisque la situation a quand même beaucoup évolué.
Notamment pour l'emploi, parce que c'était ça à la base.
Exactement. Hein. Après, si on le fait dans un contexte de tension où, au cours de la négociation, peuvent s'exprimer des rancœurs et des souhaits de faire de cette négociation un outil de vengeance ou autre, il ne faut pas le faire comme ça. Donc, il faut peut-être que d'abord... les tensions s'apaisent,
oui.
Pour qu'ensuite on puisse faire quelque chose qui soit équilibré. Comme vous le disiez, les intérêts sont quand même liés entre la France et l'Algérie, et pas seulement les intérêts, c'est aussi les sentiments. Et donc, il faut le faire dans le respect des deux parties. Et donc, il faut que la relation soit en tout cas moins tendue qu'elle l'est aujourd'hui pour pouvoir entamer ces nouvelles négociations.
Et il faut sans doute pas, et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous avez dit, Monsieur
vous
Macron
pas
est
d'accord avec vous. Vous parlez de Jean-Baptiste de Scorail.
Oui. Excusez-moi. quand vous dites, Monsieur Macron est allé faire des courbettes en Algérie, il n'est pas allé faire des courbettes en Algérie. Il y a des choses qui doivent être reconnues. Nos responsabilités coloniales, faut bien qu'on les assume à un moment ou à un autre.
Il faut arrêter avec ça.
Mais non. Mais ça dépend.
On a apporté énormément aussi.
C'est quand même il y a 62 ans.
Mais oui, bien sûr, c'est il y a 62 ans.
On a laissé un pays qui fonctionnait plutôt bien.
Mais je suis bien d'accord.
Qu'est-ce qu'ils en ont fait, le gouvernement?
Et quand on regarde par exemple Bon, j'ai beaucoup travaillé au Vietnam et je ne peux pas m'empêcher de comparer la situation du Vietnam et la situation de l'Algérie.
C'est bien de le faire, effectivement.
Et je crois, et quand, si vous faites cette comparaison, vous avez tout de suite compris que certains ont beaucoup mieux assumé les apports qui avaient été faits par la France
et
dans
un pays. Exploiter,
plus, et ont su les exploiter par rapport à ce qui s'est passé en Algérie. Et c'est d'une évidence. Quand vous vous promenez au Vietnam et quand vous vous promenez en Algérie, ça vous saute à la figure. Donc, ceci est vrai. Ceci étant, il y a des éléments qui durent plus longtemps que 70 ans. Mais, donc, ne dites pas des courbettes.
Jean-Baptiste de Scora, juste pour terminer sur l'aspect des accords du 27 décembre 68.
Par rapport à ça, effectivement, bon, je pense qu'une révision de ces accords, vous voulez, oui. Maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que de se ressourcir. Voilà, les visas continuent à être accordés à des officiels algériens, de telle manière qu'ils puissent se faire soigner en France, etc. Et ceux qui en pâtissent, c'est effectivement le peuple algérien. Donc il y a un moment où là-dessus, il faut qu'on soit aussi clair et que les choses soient claires. Je crois que l'ambassadeur algérien a été rappelé en France, il me semble. En ce moment, il n'y a plus d'ambassadeur algérien. Bon, j'espère que les choses vont s'arranger. On n'a pas parlé du problème économique aussi.
Je vous pose la question. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des sanctions, quoi, quand vous parlez de fermeté?
Attention, parce qu'on a quand même des intérêts forts économiques aux États-Unis. Non, aux États-Unis, pardon, en Algérie. Non. Aux États-Unis, malheureusement. On en a aussi, mais c'est pas dire c'est différent. Mais si vous voulez, quand on voit des groupes comme Total ou des groupes comme effectivement Engie qui sont extrêmement implantés parce que l'Algérie est un pays qui fournit beaucoup de gaz et de carburant.
C'est pas tant que ça dans notre part.
Non,
français,
mais pas chez nous. Mais on a quand même des entreprises françaises qui travaillent pour. Extraire tout cela. Donc, aussi, on a des intérêts financiers et économiques importants. Donc, il faut quand même qu'on soit ferme, mais vigilant sur les problématiques que ça peut entraîner derrière.
Vous pensez que si on ne va pas jusque-là, vous croyez que ça peut faire bouger les choses, notamment permettre la libération de Boualem Sansal?
Je ne sais pas, on va voir.
La rupture des relations diplomatiques,
que les choses vont quand même, j'espère, vont s'arranger. Mais il y a un moment où il faut aussi montrer notre fermeté. Hein. C'est pas... Et arrêter de se faire piétiner sur, je dirais toujours, et je le dis, une rente historique qui n'est plus d'actualité.
On va aussi en rester là pour ce deuxième débat sur ce sujet qui, bon, pourrait ressortir lui aussi malheureusement assez rapidement. On verra bien comment vont tourner les relations franco-algériennes dans les semaines et les mois qui viennent. Eh bien, nous avons encore un peu de temps pour vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment. Vous aviez la parole, Jean-Baptiste de Scora. Je vous la laisse et vous allez pouvoir tirer la première salve.
C'est l'histoire de la galette de la mairie de Toulouse. Oui. Et je pense que Agathe Roubi aurait mieux fait de se taire. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Bon, on a changé de fournisseur de galettes donc il s'est trouvé dans les galettes que l'on a données à nos petits Toulousains.
La mairie a donné dans les écoles.
Il y avait effectivement des fèves à caractère religieux. Bon, c'est un fait. Effectivement.
C'était quoi? C'était des petits Jésus?
Je sais pas, des Jésus. Enfin, j'en sais rien parce que je l'ai même pas. Bon, ce qui est important pour nos enfants, c'est qu'il y ait une fève et qu'ils puissent tirer les rois, effectivement, dans les écoles, puisque c'est une tradition. Donc, d'aller monter ça au pinacle.
Donc, c'est une élue de la France Insoumise.
Voilà, c'est un élu de la France Insoumise,
cette émission,
qui a été soutenu par, effectivement, M. Piquemal et M. Clouet, députés de la Haute-Garonne. Et c'est ridicule parce que ça fait tout l'effet inverse. Ça nous a donné une publicité monstre sur tout ce que l'on fait à Toulouse au sujet de faire travailler des artisans près de chez nous, etc. Et ça a été complètement ridicule. Et je crois que malheureusement ou heureusement, les gens en ont pris conscience et de cette idiotie.
Voilà, donc c'était le coup de gueule de Jean-Baptiste de Scorail. Marie-Christine Monnoyer, vous savez, un coup de gueule ou un coup de cœur?
Alors en fait, c'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de cœur. Je suis triste des résultats qu'on nous a donnés sur le nombre des naissances
en la natalité en France. Oui.
Et je suis triste, non pas parce que je considère qu'il faut absolument que tout le monde ait beaucoup d'enfants, c'est pas ça. C'est parce que c'est le signe d'une modification de la relation entre les hommes et les femmes d'aujourd'hui et la façon dont ils regardent l'avenir.
Oui, bien sûr.
Parce que quand on a des enfants, et quand on a des enfants ou des petits-enfants ultérieurement, eh bien, c'est comme si on prolongeait votre vie immédiatement de 20, de 40, de 50 ans. Et vous ne regardez plus l'avenir de la même façon si vous avez des enfants et si vous n'en avez pas. Alors, c'est ni bien ni mal, mais ça veut dire quelque chose.
Oui, c'est un constat quand même.
C'est un constat qui est lourd de conséquences et on a besoin d'avoir un regard sur l'avenir, ne serait-ce que pour penser le climat, que pour penser la technologie, et que, voilà. Et pour moi, ça m'a beaucoup attristé.
Ce dont parlait tout à l'heure Julien Clos lorsqu'il évoquait ses enfants et le monde que lui et nous, on va leur laisser. Alors Julien Clos, vous allez avoir le mot de la fin. Ça sera un coup de gueule ou un coup de cœur?
Non, ça sera... je vais revenir à l'actualité nationale et c'est... peut-être un peu de sagesse. Je pense qu'il faut savoir prendre du recul et réfléchir dans notre monde qui va très vite par rapport à ce qui s'est passé entre nos hommes politiques et femmes politiques et l'Assemblée nationale sur la motion de censure et le fait qu'il y ait un dialogue qui soit amorcé entre le Premier ministre et ses ministres et certains partis politiques et par le Parti socialiste qui a continué. Le compromis, la discussion, la négociation, accepter, faire des efforts, c'est quelque chose qui est plus difficile que de dire non et de claquer la porte. C'est plus facile d'avoir une posture comme ça. Donc voilà, moi je préfère parfois les chemins qui sont difficiles mais qui sont peut-être les plus fructueux. Il faut faire preuve d'humilité, voilà, les chemins qui sont les plus fructueux pour notre société. Et ça, c'est vrai que ça soit au niveau national et aussi au niveau local. Et c'est encore mieux quand l'exemple vient du haut. Donc je salue l'effort et on verra si le résultat sera fructueux. On a eu quelques échanges aujourd'hui encore. Et puis après, le coup près, ça sera sur le vote du projet de loi de finances. Voilà. Mais voilà, premier rendez-vous qui est passé. On verra les suivants. Voilà.
Eh bien, c'était... ni un coup de gueule, ni un coup de cœur, mais non. Donc une remarque faite par Julien Clotz, c'est la fin de cette 178e mêlée de l'info. Merci beaucoup à tous les trois d'en avoir été les invités et bravo à Julien Clotz qui faisait ses débuts dans cette émission. Merci aussi à Coraline Camebrac, la si précieuse réalisatrice de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Je remercie enfin nos auditeurs de leur fidélité renouvelée à la mêlée de l'info. À la semaine prochaine.